VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Georges Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui au sommaire de cette édition du mardi 12 décembre 2023. Au Sénégal, la justice examine si l'opposant Ousmane Sonko serait exclu ou maintenu sur les listes électorales. Niger, des ONG réclament à la CEDEAO de laisser entrer l'aide humanitaire par le Bénin. Au Gabon, bilans et perspectives pour le régime militaire après 100 jours au pouvoir.
Il y avait certaines voies où c'était les travaux s'étaient arrêtés. Mais maintenant là, les travaux ont repris en force. La surveillance des militaires, on est vraiment satisfait.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky plaide la cause de l'Ukraine au Congrès des États-Unis. La COP28 se termine en principe aujourd'hui à Dubaï. Et il n'y a toujours pas d'accord sur l'avenir des énergies fossiles. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, une audience s'est ouverte aujourd'hui au palais de justice de Dakar pour réexaminer la réintégration ou non sur les listes électorales de l'opposant Ousmane Sonko. Cela fait plus de 9 tours d'horloge que le dossier de sa radiation des listes électorales est débattu au tribunal et les débats risquent encore de prendre du temps avant l'énoncé d'un verdict final. Le point avec notre correspondant à Dakar, Wani Johnson Sambou.
Cela fait plus de 9 tours d'horloge que le dossier de la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales est débattu au tribunal hors classe de Dakar. Et les débats risquent encore de prendre du temps avant l'énoncé du verdict final. L'enjeu est l'éligibilité de l'opposant sénégalais défendu par ses avocats devant ceux de l'État du Sénégal. L'affaire a été envoyée devant cette juridiction par la Cour suprême de Dakar après que cette dernière a invalidé le 17 novembre dernier une décision de justice ordonnant la réintégration de M. Sonko des listes électorales. La radiation du leader de l'ex-parti PASTE fait suite à sa condamnation par contumace à 2 ans de prison lors de son procès pour viol d'une employée d'un salon de massage en juin dernier. Une décision qui l'exclut d'office de la course à la présidentielle de février prochain. Cependant, en dépit de la confiance affichée par ses soutiens, les analystes doutent fort que la Cour contredise la Cour suprême dans sa décision. Mais on en saura un peu plus dans les prochaines heures. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
Les États-Unis se disent préoccupés par la situation sur les droits de l'homme au Burkina Faso et condamnent les violences commises par des groupes terroristes contre des civils, des militaires et des policiers dans ce pays, a déclaré aujourd'hui le département d'État américain. Les États-Unis se disent aussi inquiets de certaines actions des autorités de transition, telles que le recours croissant aux enrôlements forcés ciblés, le rétrécissement de l'espace civique et les restrictions imposées aux partis politiques, a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, dans un communiqué. L'armée allemande a terminé sa mission au Mali au titre de son engagement dans la force de l'ONU, la MINUSMA, avec le retrait de la quasi-totalité de ses soldats, a annoncé aujourd'hui le ministère de la Défense. Les derniers soldats allemands ont quitté Gao, a déclaré Bonn. L'armée a précisé que 4 soldats allemands encore présents dans la capitale Bamako vont quitter dimanche. Des ONG internationales intervenant au Niger demandent à la CEDEAO un allègement de ses sanctions contre Niamey pour permettre l'entrée par le Bénin voisin d'une aide humanitaire d'urgence. Davantage avec Alexandrine Olouignon.
Une 20aine d'organisations réclament notamment la réouverture immédiate de la frontière avec le Bénin, bloquée en raison des sanctions régionales pour faciliter l'entrée de l'aide humanitaire au Niger. Dans leur communiqué, les ONG estiment que des exemptions humanitaires atténueraient les souffrances de plus de 4,3 millions de Nigériens ayant un besoin urgent d'aide humanitaire et pour lesquels les conséquences s'aggravent de jour en jour. Selon elle, la CEDEAO n'a pas tenu compte des appels de la communauté humanitaire pour garantir que les civils du Niger aient accès à une aide vitale. Le président de la commission de la CEDEAO, Oumar Touré, a assuré que l'organisation avait fourni un accès pour des biens médicaux et humanitaires, mais que les autorités militaires refusent de l'utiliser. À l'issue d'un sommet dimanche à Abuja, la CEDEAO a maintenu ses sanctions économiques et financières imposées au Niger après le coup d'État du 26 juillet, conditionnant leur allègement à une transition courte, notamment.
En Éthiopie, le ministre de la Paix, Taye Dandéa, a été limogé et mis aux arrêts, accusé de collaborer avec les rebelles de l'armée de libération Oromo pour renverser le gouvernement. Le limogeage de Taye Dandéa, membre influent du parti du premier ministre Abiy Ahmed, fait suite à une série série de messages qu'il a publiés sur des réseaux sociaux au cours de la semaine écoulée et dans lesquels il critiquait le gouvernement pour son incapacité à maintenir la paix dans le pays. Les Rwandais sont appelés aux urnes le 15 juillet 2024 pour élire leur prochain président. L'actuel chef de l'État, Paul Kagame, étant candidat à un quatrième mandat et pour élire leur député, a annoncé aujourd'hui la commission électorale. Paul Kagame, 66 ans, a fait part en septembre de sa candidature. Les candidats pourront faire campagne du 22 juin au 12 juillet selon la commission électorale. Les Égyptiens, eux, ont continué à voter ce mardi au troisième et dernier jour d'une élection présidentielle qui devrait donner au président Abdel Fattah al-Sissi une large victoire en l'absence de réelle compétition. L'élection qui a débuté dimanche est la troisième de M. Sissi depuis qu'il a pris le pouvoir en 2013 après le renversement du premier président élu, Mohamed Morsi. Les résultats de la présidentielle égyptienne sont attendus le 18 décembre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en visite à Washington. Il multiplie les réunions afin d'éviter que les États-Unis ne coupent l'aide militaire à son pays en guerre. Les précisions avec Dili Diko.
Le président ukrainien est arrivé ce matin au Congrès pour s'entretenir avec des élus du Sénat, la chambre haute tenue par les démocrates. Il s'est ensuite adressé aux députés de la Chambre des représentants, contrôlés par les républicains réticents à soutenir davantage l'Ukraine. Après le Congrès, le président Zelensky aura un entretien avec le président Joe Biden à la Maison-Blanche. Les États-Unis ont déjà engagé plus de 110 milliards de dollars depuis le début de l'invasion russe. La nouvelle enveloppe de 61 milliards de dollars réclamée par Joe Biden n'a pas trop de succès parmi les élus républicains les plus conservateurs. Selon la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, Adrian Watson, Moscou semble croire qu'une impasse militaire pendant l'hiver va saper le soutien occidental à l'Ukraine et lui donner l'avantage. Le Kremlin a quant à lui estimé ce mardi que toute nouvelle aide américaine est vouée au fiasco.
La COP 28 doit en principe se terminer aujourd'hui à Dubaï. Les négociateurs défendent leur ligne rouge, mais leur limite est passée sans aucun accord sur le futur des énergies fossiles. Le point avec Rosine Monizero.
Le dernier projet de texte mis sur la table lundi par Sultan Al-Jaber est jugé trop faible par l'Union européenne, les États-Unis, les petits États insulaires et de nombreux pays sud-américains. De l'autre côté, l'Arabie saoudite et ses alliés exportateurs de pétrole sont sur une ligne dure, refusant tout texte s'attaquant aux énergies fossiles qui font leur richesse. Nous nous y attendions, a affirmé mardi le directeur général de la COP28, Majid Al-Souaidi. Nous voulions que le texte déclenche une conversation, a-t-il ajouté, se félicitant de désormais connaître les véritables lignes rouges des différentes nations. Le document de 21 pages ne fixe plus aucun objectif commun de sortie du pétrole, du gaz et du charbon, pourtant envisagé dans les versions antérieures. Un nouveau projet d'accord est en attente, selon des délégués qui espèrent une nouvelle mouture. Mais l'espoir de faire adopter un texte appelant à la sortie du pétrole, du gaz et du charbon le jour du 8e anniversaire de l'accord de Paris semble peu probable.
L'armée israélienne a continué ce mardi à bombarder massivement le sud de la bande de Gaza. À Khan Younes, la principale ville du sud, où les soldats israéliens opèrent depuis la semaine dernière, les combats se concentrent dans le centre-ville et particulièrement dans la rue où se trouve la maison de Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza. Selon les habitants, Rafah, où l'armée israélienne a demandé aux Gazaouis de trouver refuge, n'a jamais connu de bombardements aussi intenses que ces derniers jours. Les agences de l'ONU continuent de leur côté à tirer la sonnette d'alarme sur la situation dramatique des civils palestiniens. À New York, prenant le relais après un nouvel échec du Conseil de sécurité, l'Assemblée générale de l'ONU se prononce ce mardi sur une résolution exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza, un texte qui a toutes les chances de passer mais n'a pas de caractère contraignant. Et puis, le président chinois Xi Jinping est arrivé aujourd'hui au Vietnam pour la première fois en 6 ans, une visite d'État de 2 jours destinée à contrer l'influence croissante des États-Unis États-Unis dans ce pays d'Asie du Sud-Est. La Chine et le Vietnam ont indiqué dans un communiqué commun qu'ils continueront à approfondir et accroître leurs relations bilatérales. Plus de 30 accords ont été signés, dont l'engagement de développer des liens ferroviaires entre le Vietnam et la Chine. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, à la Minute Éco avec Rosine Monizero.
Le Kenya est sorti du danger du surendettement selon son président William Ruto, qui a vanté sa politique économique malgré la colère des Kenyans face aux hausses d'impôts et à la réduction des subventions. Monsieur Ruto n'a fourni aucun chiffre sur le niveau actuel de la dette publique, mais a souligné que le produit intérieur brut a connu une croissance de 5,4% lors des 6 derniers mois. L'Afrique du Sud, économiquement plombée par une grave crise de l'électricité et des coupures répétées, prévoit d'augmenter sa production d'énergie nucléaire. La première puissance industrielle africaine ne possède à ce jour qu'une seule centrale nucléaire, d'ailleurs la seule sur le continent. Le gouvernement a annoncé mardi avoir lancé des discussions avec plusieurs fournisseurs potentiels pour l'acquisition de nouvelles unités de production. Aux États-Unis, l'inflation a atteint 3,1% sur un an à la fin novembre, soit légèrement moins qu'en octobre où elle était à 3,2%. Les prix continuent de se rapprocher d'un retour à la normale après un nouveau ralentissement observé au mois de novembre, selon les données publiées par le département du travail, alors même que la Réserve fédérale doit entamer sa réunion de politique monétaire.
Place maintenant au sport avec Nanit Alani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
La CAF a tenu ses cérémonies de récompense 2023 hier à Marrakech, au Maroc. La récompense la plus attendue, celle du joueur africain de l'année, a été décernée à Victor Osimhen.
Le Nigérian Victor Osimhen a effectivement été sacré meilleur joueur africain de l'année après avoir récolté les lauriers de sa magnifique saison 2022-2023 avec Naples. Chez les femmes, Asisat Oshoala, nigériane aussi, a été nommée joueuse africaine de l'année. C'est la sixième fois qu'elle remporte ce titre après 2014, 2016, 2017, 2019 et 2022. On peut dire un règne sans partage. Une autre Nigériane, Chiamaka Nnadozie, a été nommée gardienne féminine de l'année. La sélectionneuse sud-africaine Désirée Ellis a été élue meilleure entraîneur de l'année chez les femmes et Walid Regragui meilleur entraîneur chez les hommes. On rappelle que Regragui a mené le Maroc aux demi-finales de la Coupe du Monde 2022. Un autre Marocain, Yassine Bounou, le gardien de Séville, a été élu meilleur gardien africain. Le trophée du meilleur joueur, enfin meilleur jeune joueur africain est revenu à Lamine Camara. Ce prodige sénégalais de 19 ans sort d'une année exceptionnelle en remportant le CHAN et la CAN aussi des moins de 20 ans de compétition dans lesquelles il a été sacré meilleur joueur.
Al Ahly est couronné meilleur club masculin de l'année et Mamelodi Sundowns le club féminin de l'année.
Tout à fait, le club égyptien d'Al Ahly a remporté le prix du meilleur club masculin de l'année. Al Ahly a également remporté la Ligue des champions africaines et la Supercoupe d'Égypte. Par ailleurs, le club est actuellement en tête du championnat national. Quant aux Sud-Africaines de Sundowns, qui ont été élus club africain de l'année, c'est une récompense bien méritée puisqu'elles ont remporté la Ligue des champions féminines pour la deuxième fois en trois ans.
Autre sacre, cette fois, ce sont les Kenyans Faith Kipyegon et Kelvin Kiptum qui ont été sacrés athlètes de l'année dans les catégories masculines et féminines lors de la soirée gala annuelle de World Athletics à Monaco lundi.
Oui, la double détentrice du record du monde Faith Kipyegon et le détenteur du record du monde de marathon Kelvin Kiptum ont en effet été nommés athlètes de l'année. Faith Kipyegon, 29 ans et mère d'une petite fille, a connu une année mémorable en établissant des records du monde sur trois distances, réalisant également un doublé en or au championnat du monde d'athlétisme 2023 à Budapest. La Kenyane a défendu avec succès son titre mondial aux 1500 mètres et a remporté son premier championnat du monde sur 5000 mètres. Elle est devenue la première femme à parcourir 1500 mètres en moins de 3 minutes et 50 secondes et a franchi une nouvelle étape et aussi la première femme à courir 1,6 km en moins de 4,10 à la Monaco Diamond League en juillet. Pour sa part, Kelvin Kiptum a atteint son record du monde en 2h0035 secondes au Chicago Marathon aux États-Unis en octobre.
Page de sport VOA Afrique, signée Nanit Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Gabon, la transition militaire entame son troisième mois, le 30 août 2023, et à jamais gravé dans la mémoire des Gabonais, marquant le renversement d'Ali Bongo Ondimba par des hommes menés par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. La population est partagée entre doute et espoir, 100 jours après l'intrusion de l'armée dans la gestion des affaires publiques. Le reportage de nos correspondants sur place, Ismaël Obiangenze.
À Libreville, comme dans le reste du pays, le coup d'État a été accueilli favorablement par une population exacerbée par la précarité, la corruption et les détournements de deniers publics par le clan Bongo. Trois mois après, le comité pour la transition et la restauration des institutions dirigé par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a-t-il convaincu ?
On part à l'hôpital, on est vraiment bien servi. Tu vas à la mairie pour légaliser le papier. On vient te prendre le papier. Avant 30 minutes, tu es déjà servi.
Il y avait certaines voies où c'était les travaux s'étaient arrêtés. Et maintenant, là, les travaux ont repris en force. La surveillance des militaires, on est vraiment satisfait.
Comme la majorité des Gabonais, Fortuné a été très séduit par le coup de force qui a renversé le régime d'Ali Bongo Ondimba. Au fil du temps, l'activiste des réseaux sociaux commence à déchanter. Il dénonce, entre autres, des poursuites sélectives contre les fossoyeurs des fonds publics.
Je crois que la note du CTRI va à 8 sur 20. Vous sortez certains, vous décédez d'autres en prison. Tous les maux du système, c'est à lui-même qui a créé ça. Pourquoi il n'y a pas un procès pour lui? On a bien vu en Côte d'Ivoire, Gbagbo. Il allait d'abord s'asseoir quelque part avant de revenir.
Pour le Parti patriotique gabonais, nouvelle formation dans le paysage politique national, il est tôt pour dresser le bilan d'étape du comité militaire. Alain Serplice Bongoares, président du PPG.
On va dire, gérer un pays, c'est pas comme une épicerie. Ça demande du recul. Donc je pense que tous, nous devons prendre du recul et laisser d'abord les premières bases se mettre en place pour qu'ensuite nous puissions, apprécier.
Les trois mois du CTRI font la une des journaux avec un prolongement du sujet dans les officines politiques. Selon la coalition pour la Nouvelle République de l'opposant Jean Ping, il y a des raisons de croire à la trajectoire prise par les soldats. Vincent Bolingui Bokoso, vice-président de la CNR.
Grâce à ces forces de défense et de sécurité portées par le peuple gabonais, toutes les voies de l'espérance sont ouvertes.
La fin de la collecte des contributions citoyennes dans quelques jours ouvre la voie à l'écriture de nouvelles pages de l'histoire du Gabon. C'est l'engagement du CTRI qui entend rendre le pouvoir aux civils après la restauration des institutions. Ismaël Obionze pour VOA Afrique, Libreville.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Togo, la réinsertion de ceux qui sortent des prisons demeure une problématique pour les pouvoirs publics. Selon le ministère de la Justice, les chiffres de la récidive sont de 47% pour la prison de Lomé et 50% pour les autres établissements pénitentiaires du pays. Certaines organisations de la société civile s'organisent pour réduire ces taux à travers des projets de réinsertion des anciens détenus. De Lomé, la correspondance de Kossi Oussou.
Yao, la trentaine habitant la localité d'Agné dans la région des Plateaux, fait partie d'une soixantaine d'anciens détenus bénéficiaires du projet Helping Hand qui vise leur élargissement et leur réinsertion. Sorti de prison, il a entamé une formation en couture grâce à l'association GAT, le Global Alumni Association of Togo.
Il s'est fait que j'ai ouvert mon entreprise et puis j'ai fait faillite. C'est en ce moment que je me suis retrouvé en prison. Et de la sortie de la prison, GAT m'a approché. Je leur ai dit, si je peux apprendre un métier, ça serait bon. Donc, et puis ils m'ont aidé à apprendre le métier de la couture. Actuellement, j'ai déjà fait plus d'un an dedans. Maintenant, je sais que j'ai un avenir, j'ai un espoir, puis je vais gérer bien.
Tout comme Yao, certains anciens détenus se sont reconvertis au maraîchage, chauffeur de taxi ou encore revendeuse de céréales. Pour Abolou Salam du GATT, les objectifs du projet Helping Hand qui vient de s'achever ont été atteints.
L'objectif de ce projet était de faire premièrement une plaidoirie et consistait réellement à faire sortir ces anciens détenus et leur réinsérer dans la vie active. Et nous avons certains anciens détenus qui ont retrouvé leur liberté. La grande majorité qui ont aujourd'hui du travail, qui ont aujourd'hui des activités rémunératrices de revenus. Et on peut dire que le bilan était satisfaisant.
Cependant, si la majorité des ex-détenus concernés par le projet ont pu quitter les prisons, certains d'entre eux n'ont pas pu réussir leur insertion.
Les réseaux d'abandon, il y a eu exigence à recevoir l'assistance en espèces et refus de commencer petit. Il y a d'autres qui ont demandé à être logés et pris en charge 100% tout au long de leur formation. Mais l'essentiel, c'est l'inconscience de certains jeunes bénéficiaires. On essaie de les accompagner pour sortir de là, mais tu constates que volontairement, ils ne veulent pas vraiment collaborer.
L'Union des jeunes avocats du Togo a accompagné le GATT dans la partie de plaidoirie pour la relaxe de ces détenus incarcérés pour de petits délits. Au vu des résultats, après 3 ans de mise en œuvre, Maître Doucy, le président de l'UJAT, souhaite une pérennisation d'un tel projet.
Effectivement, on a eu à défendre les prisonniers gratuitement. Et voilà quelques-uns qui sont aujourd'hui en liberté. Comme on est en train de l'observer aujourd'hui, ils ont eu à bénéficier d'un peu de réinsertion. Nous pensons que ceux qui sont encore aujourd'hui en détention, il y en a parmi eux qui pourront aussi bénéficier de ce projet-là. Donc notre vœu, c'est de voir se renouveler ce projet-là, pour qu'on puisse reprendre cette activité pour le bonheur de ceux qui sont encore dans le cas.
Le GATT, qui a eu le soutien financier de l'ambassade des États-Unis au Togo pour la mise en œuvre de ce projet, indique s'engager aux côtés des autorités pour une meilleure réinsertion des ex-détenus et faire baisser ainsi le taux de récidive. Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Au Bénin voisin, la lutte contre l'érosion côtière mobilise les ardeurs depuis les années 90. Malgré les milliards engloutis et une bonne dose de volonté politique, les côtes béninoises perdent encore du terrain. Le changement climatique est pointé du doigt et les scientifiques mènent des études pour régler la question au risque de voir la ville de Cotonou effacée de la carte nationale. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Dans sa furie, l'eau au niveau des côtes béninoises ainsi que les villes et villages lacustres emporte tout sur son passage. Jadis meublé par d'élégantes maisons et de restaurants, les côtes se vident chaque jour. Quelques propriétaires terriens expriment leur désolation.
Et ce qu'on appelle ça, l'épaisseur de 1,20 m sur 4 mètres de profondeur, rien que de béton. Allez imaginer, sur près de 200 mètres. Et après ça, elle a continué le rechargement. Sinon, le quartier aussi serait à terre.
Honnêtement, je suis très malade actuellement de tout ça et je suis fatiguée, mais malgré que je suis malade de toute cette pression, je vais quand même continuer le combat.
Je crois que d'ici un an, non seulement le restaurant va partir, le 4, et ensuite toute la ville.
Les riverains pointent du doigt le gouvernement qui n'aurait pas pris le taureau par les cornes. Pour certains, vouloir arrêter l'avancée de la mer avec ses seuls bras, c'est comme planter des épis dans l'océan pour empêcher la montée des eaux.
Les études ont montré que si on effectue de tels ouvrages dans la mer, du côté est, ça doit bouffer. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris en compte le côté Est pour parier à ce drame-là.
La mer ravage tout sur son passage depuis qu'ils ont érigé l'extension de l'épi. Et je regrette beaucoup parce que je pense qu'on aurait évité tout ça si on avait pris la peine de sécuriser, de protéger le quartier en faisant des brise-lames comme ça se fait partout.
C'est en tout cas pour aider les pays comme le Bénin à sécuriser leurs côtes que le programme Waka existe. Lancé en 2016 à l'occasion de la COP21, le programme de gestion du littoral ouest-africain a pour objectif d'aider les pays à obtenir les financements et l'expertise dont ils ont besoin pour parvenir à assurer une gestion durable de leur zone côtière. Selon Bio Djaramoussa, spécialiste du programme au Bénin, on note de belles avancées.
Nous avons repoussé l'océan de 200 mètres par rapport à sa position initiale. Les travaux qui ont été réalisés dans le cadre du projet Waka peuvent être subdivisés en deux types d'ouvrages, à savoir les ouvrages terrestres qui regroupent les ouvrages de type épi et les ouvrages en enrochement de type épi, comme des revêtements, comme le talus que nous avons en face de nous, et les ouvrages maritimes. Dans la reconstitution des routes de plage par dragage, une des priorités est le respect de la granulométrie, c'est-à-dire le respect du fuseau granulométrique. Parce que lorsque vous ne respectez pas le fuseau granulométrique, vous exposez votre plage.
Selon plusieurs experts et scientifiques, on ne peut régler la question de la montée des eaux sans évoquer le problème du changement climatique et le rôle que joue l'homme par son comportement. Dr Maurice Sarensou, spécialiste des ressources en eau et médias comme l'Anouilhankouan, chef service de l'adaptation au changement climatique.
On peut rien faire pratiquement contre le changement climatique. On subit le changement. On doit prendre des dispositions pour vivre avec. Si ça s'impose à nous, donc on doit s'adapter.
De plus en plus, il y a beaucoup de supputations sur ce que le changement climatique est et ce qui relève du changement climatique. Et avec cette petite expérience que nous avons au niveau du PASS PNA et ce que nous sommes en train de faire, on essaie d'amener des évidences scientifiques, de documenter le processus en recherchant des preuves pour voir qu'est-ce qui relève du changement climatique.
En 2050, là, est-ce qu'on aura une meilleure maîtrise de l'eau? Est-ce qu'en 2050, on aura une meilleure gouvernance par rapport à aujourd'hui?
Perte de territoire, phénomène migratoire, danger pour les écosystèmes côtiers, changement climatique sont les conséquences néfastes de l'érosion côtière. Une question d'intérêt public contre laquelle le Bénin se bat et les réponses certainement ne viendront pas de Dubaï où se termine la COP28. De Cotonou, Jeanette Fladandé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Des législateurs et des parents accusent ici aux États-Unis les plateformes de médias sociaux de contribuer aux problèmes de santé mentale chez les jeunes. Un groupe d'États américains poursuit les propriétaires d'Instagram et de Facebook pour avoir fait la promotion de leur plateforme auprès des enfants. Depuis New York, Tina Train de VOA rapporte la relation de cause à effet entre les médias sociaux et la santé. Alexandrine Oulignon.
33 États américains poursuivent Meta, le propriétaire de Facebook et d'Instagram, pour les dommages que les plateformes de médias sociaux causeraient à la santé mentale et physique des enfants. Rob Bonta est le procureur général de Californie.
En cherchant à augmenter ses profits, Meta a trompé le public à plusieurs reprises sur les dangers substantiels de ses produits. Elle a dissimulé la manière dont Instagram et Facebook exploitent et manipulent ses consommateurs les plus vulnérables, les adolescents et les enfants.
L'avocat Matthew Bergman a déjà déposé des plaintes pour des cas de cyberintimidation dans les médias sociaux qui font maintenant partie du procès multi-étatique. Il affirme que les plateformes de médias sociaux sont dangereuses pour les jeunes, moins en raison de leur contenu que de la manière dont elles sont conçues pour promouvoir la dépendance.
Les algorithmes sont explicitement conçus pour maximiser l'engagement des utilisateurs, non pas pour donner aux enfants ce qu'ils veulent voir, mais pour leur donner ce dont ils ne peuvent pas se détourner. Ils les soumettent à des contenus qu'ils ne cherchent pas, qui les amènent à détester leur apparence et leur corps, et qui les encouragent à adopter des comportements à risque.
Pour sa part, Meta prétend offrir une trentaine d'outils et de ressources pour aider les adolescents à préserver leur vie privée et leur bien-être, y compris des protections contre les contacts non désirés. Emily Dalton-Smith est vice-présidente de la gestion des produits Meta.
Ainsi, lorsqu'un adulte essaie d'envoyer un message à un adolescent qui ne le suit pas, il verra une notification lui indiquant qu'il n'est pas possible d'envoyer un message à l'adolescent.
Voilà, Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Instagram, YouTube et le réseau X. pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.